FI.
Alors, on dit quoi?
Les jeunes doivent compter sur eux-mêmes, doivent s'intéresser à la politique, doivent prendre leur destin en main, doivent monter au créneau pour améliorer leur quotidien. Il ne faut jamais faire confiance aux politiques, plus encore à leurs promesses.
Biden, Rehua Adelph, jeune Tchadien de 25 ans, nous demande de prendre notre destin en main et d'oublier les promesses de nos élus. Êtes-vous d'accord? Oui? Non? Que pensez-vous de l'engagement militant, associatif ou politique des jeunes? Nous continuons ce samedi de parler du rapport entre les jeunes et la politique. La jeunesse, rappelons-le, représente la majorité de la population sur le continent, mais reste sous-représentée en politique. Bien souvent, leur seule participation se limite au vote pour un parti dont on se sent plus ou moins proche. Une situation que certains espèrent faire évoluer. Au sein de la jeunesse africaine, hommes et femmes entendent amener par eux-mêmes le changement. Certains choisissent donc d'aller plus loin en décidant d'adhérer à un parti politique et donc de rejoindre des milliers de personnes qui ont déjà fait le choix de s'engager. Illustration à Niamey, au Niger, où plusieurs jeunes candidats vont briguer la magistrature présidentielle en cette fin d'année. Nyerène, c'est parti.
Alors on dit quoi? Avec Diaran Ndiaye.
Ce samedi, dans Alors on dit quoi, nous parlons politique aux côtés de Dougou Kolo Bakonaré, chercheur et fondateur de l'Observatoire Kissal, qui fait notamment la promotion des droits humains à travers le Sahel. Bonjour Dougou Kolo.
Bonjour Diara, merci de m'avoir.
Eh bien au plaisir. Dites-nous Dougou Kolo Konaré, ce nom de famille n'est pas inconnu aux Maliens, ni d'ailleurs à l'international. Votre père était président de 92 à 2002 au Mali. Quel rapport vous avez avec la politique aujourd'hui, vous?
Disons que je vois que les choses ne sont pas si simples que ça, c'est pas en noir, c'est pas en blanc. Et donc je trouve que finalement c'est bien de voir les nuances, de savoir à quel point on fait confiance aux politiques, où est-ce qu'on doit avoir nos propres engagements aussi.
Vous êtes clairement dans la société civile, je viens de citer le nom de votre observatoire, Kissal. Ça vous tente, vous, d'entrer en politique un jour?
Moi, je trouve que chacun a sa manière de contribuer dans la politique. Et finalement, il faut accepter des jeux d'alternance dans la politique. Disons que c'est pas bien que ce soit toujours les mêmes familles. Il y a un moment aussi où quand même on engrange du savoir, de l'expérience, et c'est bien d'en faire profiter d'autres. Donc moi, je suis dans la société civile, je suis dans les droits humains, je communique avec des politiques, je ne suis pas politique moi-même.
Donc il faudrait en fait une interaction profonde entre société civile et politique engagée sur le terrain pour faire avancer les choses.
Exactement, et se dire aussi qu'on peut avoir des mouvements politiques, des associations, des partis sans pour autant être dans des logiques électoralistes.
Dougou Kolo, on va poursuivre notre discussion juste après avoir écouté ce reportage de notre correspondante à Niamey au Niger, Bouli.
À 37 ans, Ibrahim Gado, jeune entrepreneur nigérien et lancé de teint clair, vient d'être investi candidat pour les élections présidentielles par le parti qu'il a créé il y a quelques mois, le Congrès pour la République, le Progrès et la Démocratie, CRPD.
Certains diront que nous rêvons parce que nous sommes trop jeunes. Oui, c'est vrai, nous sommes jeunes, mais c'est justement parce que nous sommes jeunes que nous avons l'énergie et le courage pour faire les réformes nécessaires. Oui, parce que nous sommes jeunes, nous avons intérêt à ce que ce pays se porte mieux. Parce que nous sommes jeunes, nous devons bâtir aujourd'hui notre avenir et notre pays, le Niger.
Dans un autre décor, Salim Zangina, la trentaine également, reçoit le drapeau des mains des militants du parti Force Niger, témoignant le choix placé au jeune communicateur qu'il est pour la course vers la présidence.
Il nous faut revenir à la vocation première de la politique, qui demeure le service et la défense de l'intérêt général. Le politicien doit en effet se comporter en serviteur du peuple et non son maître, en créateur de richesses et non en prédateur de celles-ci.
Ibrahim Gado et Salim Zangina font partie de la trentaine de candidats déjà annoncés pour les élections présidentielles prévues le 27 décembre prochain. Les deux disent représenter une jeunesse prête à prendre son destin en main et soif de changement.
Cette cérémonie solennelle qui vient couronner les travaux du premier congrès constitutif et d'investiture du parti Jagorun Chi Force Niger vient démontrer à suffisance que la jeunesse nigérienne est prête. Elle est prête à assumer son destin de servir la patrie. Elle est prête à redonner confiance et espoir à un peuple désabusé et désespéré. La jeunesse nigérienne, consciente et patriote, est prête à relever les défis contemporains de développement global et durable.
Pendant que certains jeunes cherchent à se positionner au sommet de l'État, ils sont nombreux ceux qui ont candidaté pour les législatives et les locales. D'autres, de leur côté, réfléchissent à comment amener leur leader au pouvoir et avoir le plus d'élus possible. Nous sommes au siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, principal parti au pouvoir. Ici, les jeunes sont en renforcement de capacités. Soumaila Garba est un membre du bureau des jeunes Tareya.
Et nous avons formé 120 jeunes sur le rôle qu'ils doivent jouer avant, pendant et après les élections. Nous sommes concernés et nous sommes impliqués entièrement en ce qui concerne l'avenir de notre pays, l'avenir du PNDS Tareya.
Cette mobilisation s'est fait sentir aussi au Modène Falumana, principal parti de l'opposition. Yakuba Narwa est le président des jeunes Lumana de Niamey.
La jeunesse, elle participe activement dans le processus électoral au niveau des candidatures pour les conseils et même les législatives. 40% des candidats sont jeunes, que ce soit au conseil de ville, au conseil d'arrondissement et même à la députation.
Qu'ils soient des militants engagés ou simples électeurs, les jeunes font preuve d'un engouement jamais observé auparavant pour ces élections locales, législatives et présidentielles, prévues respectivement les 13 et 27 décembre 2020. Le sujet est sur toutes les langues et surtout sur les réseaux sociaux. Il suffit d'étendre le micro dans la rue pour se convaincre de cet intérêt particulier de la nouvelle génération.
En tant que jeune, moi, le processus électoral m'intéresse parce que c'est le seul moyen que nous, jeunes, nous avons de dire que nos voix, d'exprimer que nos voix comptent et que nous avons besoin de changement.
On ne peut pas ne pas s'intéresser au processus électoral, ça nous concerne tous en tant que citoyens, en tant que jeunes. C'est notre façon de participer à la construction de notre pays. On doit fortement s'impliquer dans cette histoire de processus électoral et on doit participer massivement à ces élections afin de contribuer au développement sociétal de notre pays.
Je dirais que le processus électoral m'intéresse parce que je me suis déjà fait enrôler. Je compte élire le candidat de mon choix puisque je trouve que c'est mon plein droit de voter.
Ces élections sont également au cœur des grandes rencontres de la jeunesse.
Vive la jeunesse, vive la jeunesse, vive la jeunesse pour la jeunesse.
À Diva, dans le sud-est du pays, se tient la 13e édition du camp national des jeunes. Parmi les différents sujets débattus, la responsabilité des jeunes face au scrutin qui s'annonce. Ali Oumarou est le président du Conseil national de la jeunesse.
Les élections qui s'annoncent dans notre pays, nous les attendons avec beaucoup d'impatience, mais avec beaucoup de sérénité aussi. C'est d'ailleurs pourquoi, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous avons initié une série d'activités, dont des campagnes nationales de sensibilisation des jeunes pour des élections apaisées. Ce que nous voulons, c'est qu'au jour des élections, qu'ils ne restent pas dans leur lieu de regroupement qu'on appelle communément dans leur FADA pour observer. Nous voulons qu'ils sortent massivement pour sanctionner la classe politique actuelle dans son ensemble. Et je pense que c'est bien possible.
Si les jeunes se montrent aussi engagés dans ce processus électoral, c'est parce que beaucoup sont convaincus qu'après 60 ans d'indépendance, la politique n'a pas changé grand-chose dans le pays.
L'objectif même de la démocratie n'est pas atteint aujourd'hui au Niger. Au contraire, qui parle de démocratie, parle de justice, parle de séparation de pouvoir, parle du peuple. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on remarque au Niger, tout ça là est bafoué. La parole du peuple ne marche plus.
Il n'y a pas de changement. En son temps, rien n'a changé. Peut-être la forme de la colonisation a changé. Oui, elle a changé parce que là, nous sommes tenus jusqu'à présent, 60 ans, en tenaille par la France et le monde occidental. Nous n'avons aucun moyen de contrôle de nos propres ressources.
Ils se voient dans le devoir d'apporter un changement, même si beaucoup restent perplexes quant aux motivations réelles des jeunes candidats derrière cet engagement.
Je ne crois pas à ces candidatures fantaisistes de ces jeunes-là parce que pour un jeune, il faut commencer avec les municipales, à la base. Mais vous ne pouvez pas, vous n'avez jamais géré même une propre entreprise. Vous allez postuler pour être candidat à l'élection présidentielle. Soyons sérieux. Un pays, c'est comme une entreprise. Ça doit se gérer. Donc, moi, j'aurais été convaincu si ces jeunes-là avaient commencé avec les élections municipales.
Pour le moment, les jeunes candidats font de l'espoir sur l'électorat jeune pour se faire élire.
Les petits billets de banque qu'on leur donne pour voter, cette fois-ci, ils ont dit non. Ils veulent vraiment un changement. Et on peut compter sur eux parce qu'ils sont dans un système qui ne marche pas. Donc, nous comptons sur cette jeunesse pour, évidemment, apporter ces changements tant entendus.
Un espoir qui peut se concrétiser car la jeunesse constitue plus de 65% de la population. Une nouvelle génération engagée qui refuse d'être des bétails électoraux mais des vrais acteurs de changement. Car depuis 1993, la jeunesse a toujours été au centre des projets de société de tous les candidats à la présidentielle. Pourtant, après 60 ans d'indépendance et 30 ans de démocratie, le pays peine toujours à se développer. Et pour beaucoup de jeunes, il faut passer par la politique.
Un développement que l'on attend toujours. Alors Dougou Kolo, vous avez suivi avec nous ce reportage réalisé par Bouli, notre correspondante au Niger. Niger que vous connaissez très bien d'ailleurs. Une réaction sur ce reportage?
Je remarque que les jeunes parlent beaucoup du processus électoral, comme si c'était une manière de faire entendre leur voix. Donc pas tant que ça comme une manière d'être élu lorsqu'on parle d'un niveau très élevé, notamment lorsqu'on parle des présidentielles. C'est pour ça que je trouve intéressant cette remarque vers la fin sur le fait de commencer à un autre niveau, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des mairies aussi. Et je pense que c'est là que les jeunes peuvent vraiment faire une différence parce qu'ils sont dans les quartiers, ils sont proches de populations qui les ont poussés, qui les ont amenés à vouloir s'exprimer de cette manière. Et je pense que finalement, c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter pour eux. Mais une chose que j'entends peu, mais qu'on peut aussi reprocher aux politiciens plus âgés, c'est le fait d'avoir une place dans la société avec un job, avec une carrière, ce qui montre qu'ils ne sont pas des politiciens professionnels, qui sont des gens qui sont vraiment intégrés, qui savent ce que c'est que de compter sur d'autres ressources et pas de se cramponner à des partis qui les feront vivre. Mais je pense que vraiment, là, il peut faire une différence.
Qu'entendez-vous par politicien professionnel, Dougou Kolo?
Pour moi, ce sont des gens dont les revenus viennent de la politique, qui parlent de la société, qui disent connaître la société, qui ont des gens qui leur rapportent des choses de la société, mais qui eux-mêmes ne sont pas en train d'exercer un boulot, une carrière, et qui finalement, je trouve que c'est assez factice.
Oui, est-ce que ces gens-là ne sont pas majoritaires, justement, dans l'organisme politique dans nos nombreux pays africains?
Absolument, et pas que dans nos pays africains. Je pense que c'est quelque chose qu'on trouve de manière très triste en Europe, aux États-Unis. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en Afrique, le problème, c'est qu'on n'a pas trop de transparence sur les fonds de campagne. Donc, il y a des pays, bon, je pense que les mouvements de lobbying, les mouvements de levée de fonds pour les campagnes sont pareils, sont sur des modèles similaires dans tous les pays. Mais ce que je note en tout cas, en Afrique, de ce que j'en sais, de mon expérience personnelle, et quand je compare aussi à des pays occidentaux, c'est que même la recherche de la transparence, c'est quelque chose par quoi... sur quoi on est encore en deçà.
Mais oui, on le voit ici, nos élections ont posé problème. Le financement des élections avec Sarkozy, par exemple, pose problème jusqu'à présent. Donc, on voit effectivement que cette question de l'argent des politiques pose problème partout dans le monde.
Ça pose problème partout. Et je pense que ce qui est vraiment marquant dans nos pays africains, c'est que bon, ce n'est pas quelque chose où on trouve que c'est isolé à une ou deux personnes. Je pense que si on avait des débuts d'enquête au moins, si on avait le sentiment que les politiques peuvent être inquiétés, même si on n'a pas ce sentiment de justice à la fin, je pense que c'est quelque chose quand même qui motive à avoir plus confiance en la politique qui est un engagement. Parce que si vous êtes là dans un parti, ou si vous êtes politicien, vous présentez à chaque élection, bon, ok, vous avez de l'argent, c'est financé par des intérêts peut-être de grandes entreprises, etc. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Je prends le modèle américain, par exemple, où vous avez des grands groupes de lobbying, vous avez des personnes qui ne cachent pas, et d'ailleurs, c'est le reproche que les partis se font toujours entre eux. Mais il y a une discussion autour de ça. Mais qui nous parle dans nos pays? Je prends le cas du Mali, je prends le cas du Burkina Faso, par exemple. Qui nous parle des commerçants en Afrique centrale qui sont en train de financer les candidats? Et quel compte-rendu par rapport à ça? Et d'ailleurs, que l'Occident le fasse ou ne le fasse pas, je pense que nous pouvons aussi avoir des aspirations qui ne sont pas basées sur les modèles.
Donc il faudra davantage légiférer sur ce point, selon vous, Doukou Kolo, par exemple, imposer une fiche claire et transparente des entrées et sorties des financements politiques.
Je pense que ça doit être fait au niveau des institutions républicaines, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui doit être exigé de la part des électeurs. Vous êtes dans un parti, vous dites que vous êtes militant, et souvent vous êtes très fier de voir votre candidat à certains niveaux. Bon, moi, je l'ai vu, j'ai entendu des personnes m'en parler pour la Guinée notamment, que je connais à distance, parler de leur candidat avec un certain mode de vie. Et même au Mali, on l'a vu aussi, je me souviens, après l'élection du président Keïta, j'entendais beaucoup de gens dire « c'est une fierté pour nous de voir notre candidat dans une certaine opulence ». Bon, les candidats ont leur propre manière de gagner de l'argent peut-être, mais au niveau des électeurs, qu'est-ce que vous retirez du fait de grandir vos candidats par l'argent, de faire de l'argent qu'ils sont en train de dépenser une mesure de leur succès? Je trouve que ça, c'est pas quelque chose de positif pour ces électeurs ni pour la scène politique. Ça montre que la réflexion sur les idées est quelque chose d'assez limité.
Et qu'on peut pousser d'ailleurs, c'est vrai. Alors on va prendre en ligne un auditeur, Kader Kané, qui est un jeune activiste nigérien. Bonjour Kader.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va et vous?
Bien, merci.
Kader, vous nous dites qu'on sent un engouement des jeunes Nigériens pour ce scrutin présidentiel de fin d'année. Vous dites un peu que le vent est en train de tourner, qu'il y a une nouvelle vague qui arrive, selon vous?
Ah ouais, absolument. Franchement, de mon point d'observation, c'est du jamais vu. Je pense que j'ai jamais vu autant d'engouement autour de moi, chez les jeunes, et autant d'intérêt de participer, de ne pas être simplement observateur. Et le fait que pour la première fois depuis notre histoire récente du pays, on est en train d'avoir une transition d'un président civil à un autre président civil. Tant que quelqu'un essaie de changer quoi que ce soit, franchement, ça pousse les gens à vouloir se jeter dans l'arène.
Vous, Kader, vous rendrez aux urnes voter en fin d'année?
Bien sûr. Et j'amène tout le monde avec moi.
Vous amenez tout le monde avec vous. Alors les urnes, on y croit. On y croit pour décembre. J'aimerais qu'on prenne en ligne un autre auditeur qui va réagir à ce que vous dites. Il s'agit de Yero, qui est un confrère journaliste au Niger. Bonjour Yero.
Bonjour.
Alors pour vous, les jeunes ont joué les spectateurs un peu, mais ils ont décidé de s'affranchir au Niger, visiblement, puisqu'on voit un petit peu un engouement autour de cette prochaine élection. Quelle analyse politique vous tirez de cela? Les avis semblent partagés.
Ah oui, l'engouement, il est évident. Il est évident vraiment. Les jeunes, depuis les années 90, sont toujours au devant des activités politiques lorsqu'il s'agit de mobiliser les électeurs ou les partisans pour les leaders politiques, mais également lorsqu'il s'agit de contester, c'est toujours les jeunes qu'on met devant. Mais quand il s'agit de prendre des responsabilités au sein des appareils des directoires des partis politiques, les jeunes sont relégués au second plan. On les réduit à des postes de président de la jeunesse. Donc pour les confiner, une façon de leur dire que écoutez, vous n'êtes pas encore mûrs, vous ne pouvez pas vous prendre des responsabilités autres que celles de la jeunesse. Les jeunes aujourd'hui, ils ont compris cela, ils ont compris qu'ils sont marginalisés et ils ont décidé de s'affranchir. S'affranchir puisqu'ils ne peuvent pas le faire dans les partis politiques traditionnels qui sont dirigés par des gens d'un certain âge et qui s'entourent également eux-mêmes de personnes d'un certain âge. Alors les jeunes n'ont trouvé d'autre alternative que de créer eux-mêmes de nouveaux partis politiques et de candidater aux différentes élections. J'aimerais, si vous le permettez, réagir à un auditeur qui disait tout à l'heure que les jeunes auraient dû commencer avec les élections locales, municipales, avant d'aller à la présidentielle. Mm-hmm. Je dis non, c'est pas ça la question.
Il ne faut pas y aller étape par étape, selon vous, Yero?
Les leaders que nous avons aujourd'hui ne sont pas partis étape par étape. Dans les années 90, ils sont sortis directement, ils ont cherché la présidence de la République.
Mais il faut une base politique, peut-être, avant de se lancer à un si grand poste.
Une base, ces leaders n'avaient pas de base politique parce qu'on était sorti d'un régime d'exception et c'était l'ère de la démocratisation après la conférence nationale. Et c'est en ce moment qu'ils se sont lancés dans la politique. Mmh. Aussi, j'aimerais dire, aujourd'hui, c'est les médias qui dominent le monde. Ce que les gens voient, ce sont les candidats, les jeunes candidats à la présidence de la République. Mais derrière eux, il y a aussi d'autres candidats. Moi, je connais un parti politique qui,
prend des jeunes gens de 20 ans, d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années, et qui ne sont pas riches.
Eh bien, justement, Hiero, pardonnez-moi de vous couper, mais j'avais un auditeur, malheureusement, nous n'avons pas réussi à le joindre en ligne. Ibrahim, il nous disait qu'il ne croyait pas du tout en ces candidatures fantaisistes, et notamment des jeunes dont vous parlez.
Oui, justement, c'est son point de vue, je le respecte. Mais je dis que c'est une dynamique qui vient de naître. Les jeunes ont décidé de se lancer dans la course. Ils se lancent dans la course, on va les observer, on va voir ce qu'ils pourront faire. Et ces jeunes sont aujourd'hui en train de se battre. Donc, je ne dirais pas que c'est des candidatures fantaisistes, parce que candidature fantaisiste, c'est celui qui pose sa candidature et part s'asseoir sans espoir de gagner, ni même se battre pour gagner. Or, les jeunes aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour gagner, et il y en a qui croient fermement qu'ils vont remporter la présidentielle.
Merci, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Hiero.
Je vous en prie. Merci à vous également.
Bad guys. Soft work.
On écoute à présent False Soft Work.
I been in beat, you we know when we hand talent. They say we the shogun, it's a damn habit. We no struggle to collect best artists. First class, no be who collect extra shit. Give ladies ecstasy with our expertise. We call it shots, but them know they get service. When we come out London, we go check Paris. I dey smell envy, I detect malice. I don't care lifestyle, you go feel lavish. Foreign girls in my house, I dey learn Spanish. And the French girl tell me, je m'appelle Gladys. I dey scope on my LED, some bread vanish. But no be strain on my pocket, cause we less famished. Ladies love make men, and we established. Then they come find us like we herbalist. Then we drop our bobo if it's well galished. We came through in that Mercedes. Mama, look at how we made it. Hey, a little look on some ladies. Yeah, we they turn up on the daily. We came through in that Mercedes. Hey, mama, look at how we made it. A little look on some ladies. Yeah, we they turn up on the daily. It's how I walk up. Yeah, soft walk. Yeah, it's how I walk. Yeah, soft walk. Yeah, it's how I walk. It's the life we chose. I could have been in chambers. No regrets, this one they pay pass. We get the drive, we get all the papers. Trust nobody, real niggas stay scarce. This my party, why you want to get crash? You the copy cutter, you done the claim rise. Cause you know say that one are the main cash. You be army rubber, your people they size. Riches and manners, cash and etiquette. Mature money, and I ain't even 30 yet. I know your face, but I can't remember where we met. Now just courage, the power where the henny gets. Stories that touch from a real life angle. This one's for the nights, I burn the midnight candle. In the law school, so I could be called Tuba. Now I'm a rap star, mommy I'm popular. We came through in that Mercedes. Mama, look at how we made it. Hey, a little look on some ladies. Yeah, we they turn up on the daily. We came through in that Mercedes. Hey, mama, look at how we made it. A little look on some ladies. Yeah, we they turn up on the daily. It's how I walk up.
C'était False Soft Work.
Alors, on dit quoi?
Ce samedi, alors on dit quoi vous donne la parole. Certains jeunes n'hésitent pas à s'investir dans des partis politiques. Néanmoins, beaucoup d'autres boudent les urnes. Quel intérêt porte-t-il à la politique? Les réponses de suite. Un petit point à présent sur le Mali, justement, qui a connu un énième coup d'État cette année. Le pays est en pleine transition depuis le coup d'État d'août dernier qui a vu la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et l'installation de l'ex-ministre de la Défense et des anciens combattants, ancien militaire Mbandao, qui a été nommé président de transition du Mali le 21 septembre 2020. Dougou Kolo, on va en parler. Juste avant, j'aimerais qu'on entende Sori Ibrahima Maïga, qui a 24 ans. Il nous appelle de Bamako. Bonjour Sori Ibrahim.
Bonjour Ndiaye.
Alors dites-nous, vous connaissez mieux que moi la situation politique malienne, mais j'aimerais savoir quel régime vous convient le plus, vous, un régime politique ou militaire pour le Mali?
J'aurais aimé que le régime soit clairement civil, mais malheureusement, la stature du régime actuel, elle est d'un point de vue civil et d'un point de vue militaire, puisque celui qui est à la tête de la transition, Mbandao, il avait été militaire d'abord, et ensuite, étant à la retraite, on l'a fait appel pour qu'il vienne diriger cette transition. Mais ça aboutit vraiment à la catastrophe, si je peux m'exprimer ainsi, parce que les lignes n'ont pas bougé. On est toujours revenu à la case de départ. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher.
Eh bien, on espère nous aussi. On va laisser réagir Maudy. Sori, vous restez en ligne avec nous. Maudy nous appelle également de Bamako. Maudy, bonjour.
Bonjour.
Maudy, votre compatriote Sori nous dit que le Mali a besoin d'un régime civil. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution pour le Mali?
un régime militaire au Mali, c'est ce qu'il nous faut parce que et quand on regarde un peu, c'est-à-dire comment est-ce que les choses ont évolué au Mali, on se rend compte que depuis qu'on a commencé avec les régimes civils, le Mali se perd de jour en jour, c'est-à-dire nos différents repères. Voilà.
On va prendre en ligne une réaction de Dougou Kolo. Dougou Kolo, nous avons en ligne deux auditeurs qui sont partagés, un régime civil pour l'un, un régime plutôt militaire pour d'autres. Que faut-il retenir de ce débat autour des instabilités qui se succèdent au Mali?
Je suis convaincu que la question n'est pas bien posée. Pour moi, ce n'est pas une question de régime civil ou militaire. Je pense
que
plutôt qu'il s'agit de défendre les institutions de la République.
Mais quand on est civil, on peut le faire, et quand on est militaire aussi.
On peut le faire en tant que civil et militaire, mais il faut vraiment une alliance. L'armée est là pour protéger les institutions. Le président, l'Assemblée, les institutions de justice aussi. Malheureusement, ce à quoi on est arrivé, c'est l'armée se levant et disant « les civils ne sont pas en train de le faire ». Mais on a aussi vu des régimes militaires échouer totalement. Et je pense que même les régimes militaires qui viennent, ce sont aussi des régimes qui ont peur de ce qui peut se passer à l'intérieur de l'armée. Et donc, ce sont des régimes qui peuvent devenir très rapidement paranoïaques. Mais ce qu'on voit aujourd'hui au Mali, c'est vraiment une tentative de battre les cartes de nouveau, une tentative de combiner les types de régimes. Le sentiment que j'ai pour l'instant, en essayant d'être optimiste et tout en condamnant le coup d'État qui a eu lieu, qui n'aurait pas dû avoir lieu parce qu'on était quand même sous un régime démocratique qui aurait dû accepter plus de dialogue, plus de discussion avec la population. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on a un gouvernement qui est là avec des membres de la société civile, avec des personnes qui ont fait partie de gouvernements passés aussi. Et on a une armée qui est là, disant, nous avons fait un changement de régime. Aujourd'hui, nous sommes là pour encadrer la période de la transition. Moi, je n'attends pas de ces militaires qu'ils exercent directement sur tous les aspects de la vie. J'attends qu'ils soient là pour amener de l'ordre, pour qu'ils amènent de la justice aussi, et que chacun puisse faire son travail, que le gouvernement non plus ne se sente pas intimidé, aussi bien par d'autres militaires que par des éléments de la société civile qui sont profondément anti-républicains.
On va prendre l'avis de Touré Sidi Mohamed, qu'on a enregistré en amont, qui nous a partagé son point de vue là-dessus. Dougou Kolo et Maudit et Sori, écoutez.
Moi, sur les plans politiques, ce que j'attends de nos dirigeants, c'est un changement de comportement, un changement de vision. Parce que ce qui est là, ce n'est pas ce qui est souhaité par la population. Parce que si tu vois que la population demande, ce n'est pas les têtes des personnes qu'ils veulent, mais c'est un changement. Et ce changement, c'est un comportement que nous, population, nous devons aider nos politiciens à l'étendre. Et chaque Malien se doit de changer positivement et de changer sa manière d'être pour qu'on puisse avoir un pays émergent, un pays, le pays qui est souhaité pour chaque Malien, où tous les citoyens seront égaux devant la loi. Et c'est là il le faut pour nous tous et pour le bien-être de notre population.
C'est du changement qu'il faut, nous dit Touré Sidi Mohamed. Dougou Kolo, c'est un petit peu ce que vous disiez à l'instant au sujet de cette question de régime civil ou militaire.
Absolument, et il faut que chacun, à tous les niveaux, sache qu'il y a des conséquences à ses actes. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'arrêter de faire un renversement de régime. On ne peut pas se contenter non plus de venir exercer en tant que militaire. Les militaires doivent montrer que la justice commence à l'intérieur de l'armée. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis donc fondateur d'une organisation de droits humains. Je ne peux que déplorer le fait que les assassinats de civils continuent au centre du Mali, qu'il y ait aussi des milices qu'on laisse agir de manière néfaste, commettre des crimes et en même temps aussi qu'on soit en train d'accuser des responsables des régimes passés sans pour autant qu'il n'y ait de justice derrière. Mais là, je vois déjà qu'il y a des enquêtes au niveau du bureau du vérificateur général qui pointent que dans les chancelleries du Mali, dans les ambassades, il y a eu des problèmes financiers majeurs et qu'aujourd'hui, on a interpellé certains responsables. Donc, c'est un bon début, mais qu'il faut aussi appliquer à l'armée et aux responsables politique passée.
Une dernière question avant de clore cette question du Mali de Dougou Kolo, la question des jeunes dans tout ça. Où et que font-ils pour justement mettre leur empreinte un peu dans cette question de crise et d'instabilité au Mali?
Je trouve qu'il y a un grand changement depuis 2012. On voit de plus en plus de jeunes sur les réseaux sociaux. Donc dire des choses qui sont parfois dans l'esprit républicain, d'autres fois totalement à côté. Je prends par exemple les questions de mœurs sociales, les questions de personnes qui sont en prison pour des crimes qu'elles ont commis. Mais on voit beaucoup de jeunes dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut qu'on relâche telle ou telle personne. Et en même temps, ce sont les mêmes jeunes sur les réseaux sociaux qui viennent critiquer les institutions de l'État. Donc je trouve que le débat, c'est quelque chose qui a été permis par les outils modernes de communication, mais en même temps, il doit y avoir un effort pédagogique constant. Les autorités doivent être sur les réseaux, pas seulement pour surveiller les gens, mais aussi pour vraiment faire du plaidoyer, expliquer ce qu'elles sont en train de faire et ne pas juste faire des communiqués, qui est vraiment une interaction avec les jeunes sur tous les espaces, à la radio, lors de plénières, mais aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc.
Merci à Maudit et Souris d'ailleurs qu'on a eu en ligne à l'instant. Dougoukolo, on continue de parler de ces jeunes. Alors vous parliez des jeunes qui sont très actifs sur le débat dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi des jeunes ancrés dans la politique de leur pays. Direction tout de suite le Sénégal, où on va prendre en ligne Bassirou Samb, qui est sur le terrain politique depuis son jeune âge. Bonjour Bassirou Samb.
Bonjour.
Bassirou, vous êtes président du conseil communal de jeunesse de Grand Yoff, membre du parti Khalifa Sall Taha au Sénégal. Vous êtes aussi le chef de cabinet du maire de Grand Yoff. 28 ans et déjà une longue carrière. Alors plongez-nous un peu au cœur de ce militantisme. Quels avantages votre engagement politique a-t-il apporté à votre vie et quels inconvénients peut-être aussi?
Oui, notre militantisme date de très longtemps parce que nous avons engagé le mouvement associatif dès que nous étions à l'école primaire. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas l'âge de voter. Il y avait un mouvement d'obédience scout, mais qui forme les futurs citoyens de demain, un mouvement citoyen que j'avais l'habitude de voir au niveau de la cour de notre école. Mm-hmm. Et par le biais d'amis, j'ai intégré ce mouvement. Ce mouvement est considéré comme la pépinière du Parti socialiste. C'est l'ancien parti fort qui a dirigé ce pays pendant 40 ans, le parti du président Léopold Sédar Senghor. Par le biais de ce mouvement, nous avons fréquenté un tout petit peu la maison du parti, siège du Parti socialiste, le siège au niveau local, où nous avions l'habitude de côtoyer le grand responsable que nous n'avions pas eu l'opportunité de voir à part la télévision. Donc en 2007, nous avons intégré les instances locales avec comme responsabilité le secrétaire général d'un comité. Quand on parle de comité dans le parti, c'est souvent 25 voire 50 personnes jusqu'à 100. Donc nous avons intégré un comité. Ensuite, nous étions l'adjoint au niveau
de la pardonnez-moi de vous couper, mais je voulais savoir un peu les avantages de votre engagement politique. Comment vous les voyez depuis toute cette carrière que vous avez menée depuis scout, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, à aujourd'hui?
Oui, notamment, c'est d'abord d'être au service de son pays. Parce que quand on est en politique, c'est d'abord aider son prochain. C'est être au cœur de l'activité de la communauté, pouvoir apporter notre petite expertise dans la marche de notre commune d'abord et ensuite dans la marche de notre État. Donc nous apprenons beaucoup, nous essayons aussi d'apporter notre contribution en tant que jeunes et nous essayons aussi de porter les problèmes que rencontrent nos pères qui n'ont pas peut-être la posture que nous avons aujourd'hui.
Et les inconvénients que vous voyez alors?
Oui, il y en a beaucoup parce que nous avons fait la prison grâce à cet engagement politique.
Alors quand vous dites nous, c'est votre leader, pas vous personnellement, c'est Khalifa Sall dont vous parlez là.
Non, c'est nous d'abord, personnellement, nous avons eu à faire la prison. 2 mois avant que lui ne nous rejoigne au niveau de la prison. Mm-hmm. Et c'était à cause d'une incompréhension liée à notre engagement. Parce qu'à un moment donné, nous avons su dire non à ceux avec qui nous étions dans la partie sociale parce que l'orientation n'a pas été la même, les principes n'étaient plus les mêmes. Il fallait qu'on puisse s'affirmer pour dire non, chose qui est parfois inadmissible chez nous.
Oui, il y a eu une scission au sein du PS et vous avez créé du coup Manko Taha au Sénégal.
Oui, effectivement, parce qu'au congrès de 2014, j'étais devenu le responsable de la région de Dakar, la plus grande union régionale et premier adjoint au niveau national. Donc à un moment donné, nous avons dit non et il y a eu une scission. Et à travers cette scission, nous avons fait la prison 4 mois. Ensuite, notre leader nous a rejoints. Et le parti a par la suite aussi annoncé que nous avons été exclus des rangs de ce parti. Et depuis lors, même si nous avons contesté cette exclusion, nous continuons notre combat politique au sein d'une coalition, d'une plateforme qui s'appelle Taha au Sénégal et dont le leader est Khalifa Babacar Sall.
Taha au Sénégal, vous avez justement participé à plusieurs campagnes avec ce parti. 2007, première campagne électorale avec le PS sur le terrain, ça c'était pour vous personnellement. 2017 aussi, vous tentez les législatives avec Manko, Taha au Sénégal cette fois. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Comment on se relève lorsqu'il y a des échecs en politique?
Oui, c'est très difficile parce que notre première défaite, c'était en 2007, c'était dans le Parti Socialiste Réuni, notre première expérience électorale où nous avions pensé que le parti avait la possibilité de revenir. Malheureusement, nous avions perdu face au candidat Abdoulaye Wade. En 2012, nous avons tenté, nous avons perdu, mais entre-temps, en 2009...
petite victoire à la mairie de Dakar.
Oui, en 2009, nous avons gagné la mairie de Dakar et celle de Grand-Yoff, ma commune. En 2014 aussi, avec Tahaou Sénégal, Tahaou Dakar, nous avons encore obtenu un deuxième mandat au niveau de la ville de Dakar. Mais c'était ma première responsabilité au niveau communal où j'occupe la fonction de chef de cabinet du maire depuis 2014.
Et 2022, vous préparez, j'imagine, les prochaines séances au Sénégal. Vous y ferez quoi et pour qui?
Effectivement, d'abord, nous préparons les échéances locales qui se profilent immédiatement pour chercher un second mandat sur le plan local. Mais nous préparons aussi les élections présidentielles de 2024 où nous pourrons porter la candidature de notre leader, Khalifa Babacar Sall.
Et sous Tahaou Sénégal, c'est bien ça?
Oui, ça peut être Tahaou Sénégal ou une autre plateforme. Parce qu'avec Khalifa, c'est l'ouverture et on appelle tous les Sénégalais qui se retrouvent avec les mêmes principes. Donc en 2024, on peut aller sous la bannière de Tahaou Sénégal, tout comme cette bannière peut changer de nom avec les personnes qui se retrouveront dans notre projet de société.
Avec un héritage du Parti Socialiste toujours ancré au fond ou pas du tout?
Absolument. Nous sommes foncièrement socialistes et revendiquons toujours notre appartenance. Et nous pensons que la base naturelle du parti est avec notre leader, Khalifa Babacar Sall.
Alors vous restez en ligne avec nous, Bassirou. J'aimerais qu'on écoute un autre auditeur. Il s'agit de Yannick, qui est consultant bancaire. Il nous appelle d'ici à Paris. Yannick, bonjour.
Bonjour.
J'aimerais une réaction de votre part au sujet du parcours de Bassirou, qui a plutôt suivi d'abord un parti historique, qui est le Parti Socialiste au Sénégal.
En fait, je pense que c'est exactement ce que je dénonce, moi, par la jeunesse africaine, à savoir ce besoin de suivre ce qui existe déjà et de ne pas créer une scission claire par rapport à ce qui existe déjà pour pouvoir se développer. En gros, je pense qu'il a des idées, il a de très bonnes idées politiques, il a de très bonnes idées pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine, mais je dénonce le fait d'être lié justement à ce passé qui est hérité du colonial et ne pas forcément vouloir et pouvoir créer son propre parti et avec ses idées et développer pour que la jeunesse puisse profiter de ses idées.
Mais Yannick, là, c'est pas un peu ce qu'a fait Khalifa Sall en se détachant du PS et en créant Tahaou Sénégal? Bon, pardon, oui, je me fais le porte-parole de Bassirou. Bassirou répondra après, mais je vous laisse répondre.
C'est quand même toujours du PS, c'est quand même toujours ce passé du PS, c'est quand même toujours ce passé historique, plus ou moins, on va dire, entaché par plusieurs affaires. Je pense que c'est ce qu'il ne faut pas. Quand on est jeune et qu'on a des idées, il faudrait vouloir le changement pour la jeunesse africaine. Et sachant que dans la situation où le Sénégal se trouve actuellement, il n'y a rien qui est fait pour les jeunes. On le voit par l'actualité, avec ces jeunes qui vont et qui essayent de trouver un avenir meilleur ailleurs, qui n'auront pas forcément. Donc voilà, non, je pense qu'il faut vraiment créer une scission, vouloir entreprendre des projets politiques pour le Sénégalais, pour l'Afrique, et ça passe par ce changement direct et non ce greffage, on va dire, sur ce qui existe déjà.
Eh bien, on va laisser Bassirou vous répondre.
Oui, nous avions pensé qu'aujourd'hui, pour pouvoir changer ce pays, et pour pouvoir amener ce pays de l'avant, nous pensions qu'il fallait s'engager dans un parti comme le Parti Socialiste, d'abord sur le plan doctrinal, sur le plan de l'idéologie. Mais lorsque nous sommes rendus compte que cette direction n'est plus dans la même dynamique, nous avons pris notre responsabilité en mettant en place une structure qui s'appelle Tahaou Dakar et qui est devenue aujourd'hui Tahaou Sénégal. Le plus important pour nous, ce n'est pas de créer quelque chose, mais c'est de pouvoir défendre ce pourquoi nous nous sommes engagés en politique, de pouvoir être le porte-étendard des jeunes, quel que soit le cadre dans lequel nous évoluons. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de le faire et nous continuerons à sensibiliser davantage les jeunes à s'engager, non pas pour une personne, mais pour des causes et pour des principes. Et c'est pour cela que nous nous sommes engagés aux côtés de Khalifa Babacar Sall, avec qui nous pensons qu'on peut changer la donne au Sénégal.
C'est-à-dire qu'il faudrait créer de nouveaux partis, de nouvelles idées, mais sur quel modèle alors? On oublie l'idée de ces partis politiques et on crée des mouvements, comme l'a fait En Marche, par exemple, lors de l'élection de Macron?
Exactement. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est rassembler toutes ces idées-là, les mettre en forme, créer des mouvements qui permettront de mettre en forme ces idées et surtout de pouvoir avancer. C'est bien beau de dire oui, on fait de la politique, oui, on a créé un nouveau parti, mais ce parti est rattaché au PS. Moi, je ne pense pas, après je n'ai pas la vérité absolue, mais je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de pouvoir faire avancer les choses. Et à ce que je sache, D'accord, effectivement, d'accord, Khalifa Sall, la mairie de Dakar, c'est bien beau, mais est-ce que les choses ont évolué pour cette jeunesse sénégalaise dakaroise? Je ne pense pas.
Vous, il y a un parti qui semble cocher plusieurs cases de vos idéaux politiques, c'est celui de Sanko, Pastef, on l'a mentionné un peu plus tôt dans l'émission, dites-nous pourquoi.
Déjà, dans un premier temps, je pense que Sanko, je ne connais pas bien, connais pas du tout le personnage, c'est-à-dire que à travers ce qu'il représente, je m'identifie à ce que Sanko représente. Je ne m'identifie pas au personnage, mais je m'identifie à ses idées. Alors, effectivement, c'est un nouveau parti qui n'est absolument pas rattaché à tout ce qui existait déjà. C'est des valeurs pour lesquelles l'Afrique est mise en premier plan. Et surtout, je pense qu'il faudrait vraiment donner une chance à ces nouveaux partis. Là, par conséquent, je ne parle pas forcément de Sanko, mais à ces nouveaux partis, à ces nouvelles personnes, à ces nouvelles idées.
Mais quelles idées concrètement? Vous parlez d'idéaux qui semblent vous plaire. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui vous a séduit dans leur discours?
Alors, les idées de se débarrasser du passé colonial, de faire en sorte que le Sénégal, là, dans ce cas-là, le Sénégal soit effectivement indépendant réellement et non pas des pions ou un pion africain de la France.
Bon, ce débat, on ne va pas le refaire, mais toujours on parle de ce passé colonial qui existe pour certains et pas du tout pour d'autres.
Oui, bien sûr, mais après, il faudrait se rendre en évidence. Quand vous voyez qu'il y a plusieurs marchés qui sont toujours pris par des entreprises françaises, bon, c'est sûr que effectivement la pression coloniale est faite en ce sens-là. Elle existe et il ne faut pas le renier. Mais je pense qu'il faudrait vraiment, à travers les idées, donc par rapport à ce passé colonial, par rapport à ce désir de vouloir éradiquer totalement toute forme de corruption qui existe déjà, quand on voit des projets qui existent et qui sont là et qui sont en guillemets en sandbag, je prends le cas par exemple du TER qui est cloué au sol depuis je ne sais combien de temps. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font que effectivement, je pense que la jeunesse a vraiment son rôle à jouer pour faire profiter justement la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, des valeurs et de toutes les richesses de notre continent.
Merci beaucoup Yannick d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre témoignage et on fera un autre débat sur cette histoire de passé colonial parce qu'on a besoin d'en parler. J'ai l'impression que ça revient beaucoup. Merci Yannick.
Merci beaucoup.
Alors on dit quoi ?
Une réaction de Dougou Kolo, puisque on voit un petit peu ce tiraillement entre anciens partis et ces nouvelles têtes d'affiche qui arrivent un petit peu dans certains pays. C'est notamment le cas au Sénégal. On parlait du PS et d'un nouveau parti de Sanko Pastef. Dougou Kolo, que dire de ces tiraillements entre anciens et nouveaux partis?
C'est quelque chose qui est nécessaire parce que la jeunesse, elle aussi, doit se faire entendre.
En quelques
mots. C'est la raison pour laquelle je pense que le fait d'aller vers des élections même présidentielles, ce n'est pas mauvais. Ce que je critique dans cette question d'élection présidentielle, c'est le fait d'espérer nécessairement se faire élire et de mettre des sommes d'argent colossales dedans. Mais je pense qu'il est nécessaire de créer des organisations qui sont pour les jeunes, qui créent un débat, qui interpelle directement les anciennes générations.
Mais on a vu ça, Dougou Kolo, pardonnez-moi de vous couper, mais il y a eu des conseils de la jeunesse qui ont été installés, demandés par l'Union africaine dans plusieurs pays, et finalement, c'est que force de proposition, surtout au ministère de la Jeunesse, par exemple, c'est force de proposition, mais ça ne va pas au-delà. Est-ce que c'est suffisant? Ces institutions ont créé une énième institution qui pourrait partager les débats, les avis des jeunes. Est-ce que c'est utile, finalement, pour participer au débat démocratique?
Malheureusement, ce sont des organisations qui sont là sous, avec la coopération, sous la responsabilité dans un sens de l'État, des gouvernements. Et donc, de ce fait-là, c'est très difficile pour ces organisations d'avoir une marge de manœuvre importante. Mais ce sont quand même des organisations qui ont leur place. Ce sont des organisations qui permettent d'avoir aussi un cadre républicain dans lequel les gens peuvent se reconnaître. Donc c'est de l'ordre. Mais face à cet ordre, il faut aussi qu'il y ait un autre côté. Il faut qu'il y ait un contre-équilibre d'organisations qui sont plus là pour créer de la polémique.
Dougou Kolo, on arrive presque à la fin de cette émission. On va d'abord prendre Gilles Latran et ensuite on conclut en quelques mots. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Gilles, vous êtes conseiller municipal et départemental de Brazzaville, l'un des plus jeunes du Congo. D'ailleurs, félicitations à vous.
Merci.
À bientôt 29 ans, vous avez été élu depuis 2007 pour un mandat de 5 ans comme conseiller à la mairie de Brazza au Congo en candidat indépendant et vous êtes aussi entrepreneur. Et je sais que ces deux casquettes sont importantes pour vous. Expliquez-nous pourquoi.
Vous savez, Madame Diaye, personnellement, je ne fais pas de la politique un métier. Mais la politique est pour moi un engagement citoyen. Donc il était très important pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice dans le développement politique de mon pays. Et j'arrive bien évidemment à faire la part des choses entre le travail qui est le mien et l'engagement politique que j'apporte justement
au quotidien.
Contribution pour l'évolution de mon pays au quotidien.
Vous êtes conseiller municipal, il faut dire, c'est beaucoup de délibérations, des vœux sur tous les sujets d'intérêt local, je sais pas, le budget par exemple, supprimer des services municipaux, des travaux, des choses comme ça. Mais du coup, est-ce que vous sentez réellement un impact dans les populations? Est-ce que c'est suffisant pour vous?
Il y a un changement qui se fait. Vous savez, au Congo, on a eu justement à changer la constitution et laisser la place aux jeunes. Nous avons pu permettre à certains jeunes de pouvoir aller justement aux élections. Et depuis la nouvelle mandature à la mairie, beaucoup de jeunes sont passés conseillers. Et certaines personnes ont eu à ramener du sang neuf, des idées, des propositions. Et effectivement, justement, moi et un autre conseiller municipal, nous avons initié justement un projet de faire les 9 arrondissements de la ville de Brazzaville pour discuter avec les jeunes, pour proposer avec les jeunes, pour qu'on échange ensemble pour améliorer la condition de vie des Brazzavillois.
Une dernière question, Gilles, pour vous, la suite, c'est quoi, devenir député?
Bon, je ne fais pas de mystère de mon engagement politique, je serai candidat évidemment en 2022 pour être député, pour que ma voix porte au plus haut, au niveau national. Parce qu'en tant que conseiller municipal, je m'arrête à la ville de Brazzaville.
Et vous voyez beaucoup plus loin et vous voyez beaucoup plus grand. Merci beaucoup Gilles pour cette participation.
Je vous remercie.
Dougou Kolo, en quelques mots, alors il ne nous reste même pas une minute pour conclure cette émission. J'aimerais que vous nous donniez le mot de la fin. Tiens, ça fait 2 semaines qu'on parle du rôle des jeunes dans l'arène politique, un rôle central, important, et on est nombreux. Qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous en quelques mots? Dites-nous.
La politique n'est pas que dans les partis. Les associations de droits humains, les associations de promotion du statut des femmes, toutes ces différentes organisations sont des organisations qui doivent aller vers la rencontre avec les politiciens. Pas seulement vers les gouvernements, mais vraiment contribuer à la mise en place de programmes et à la mise en place aussi de leurs aspirations dans l'appareil d'État. Et c'est la raison pour laquelle je suis persuadé que si on veut réussir, justement, au-delà de cette question de politiciens et armées, il faut aussi s'adresser à la société civile et il faut en faire des garde-fous pour ce qu'on fait. Sinon, on se retrouvera à être éjecté d'un processus démocratique.
C'est ce qu'on ne veut pas. En tout cas, merci infiniment, Dougou Kolo, d'avoir participé à cette émission. Vos éclairages nous sont très précieux.
Merci à vous.
Et merci à vous, chers auditeurs. Merci à toute l'équipe d'Alors, on dit quoi, Beverly, Daba, Mariam et Guillaume. Dieu à vous, chers auditeurs. Votre soutien nous est très précieux. Tout de suite, place au journal Unknown Hagangol. À bientôt.
Even real talent gone still need promo. If you fake your own death, you feel still no blow. Bami want my tole role play, Tony logo. I'm a to yellow bee, Sikira to sing dodo. A damn said that already knows the coco. Cause I don't have many power to defeat Zobo. We came to win that Mercedes. Mama look at how we made it. Hey, they need to look on some ladies. Yeah, we they turn up on the daily. We came to win that Mercedes. Hey, mama look at how we made it. They need to look on some ladies. Yeah, we they turn up on the daily. It's how I walk up. Yeah, soft walk. Yeah, it's how I walk.